Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, plongée dans un stade de football. Oui, pour tenter de comprendre une culture populaire, violente parfois, fervente toujours, celle des supporters, à travers l'exemple emblématique d'un club souvent décrié pour cette raison précise, le Paris Saint-Germain. Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est quelque chose de bien plus important que cela. Cet aphorisme resté célèbre qu'on doit à Bill Shankly, légendaire entraîneur de Liverpool, est sans doute difficile à appréhender pour les non-initiés. D'autant que des drames sont souvent venus ternir la réputation du foot et de ses fans. En 1985, au stade du Heysel, à Bruxelles, 39 personnes perdaient la vie après l'invasion d'une tribune par des supporters anglais juste avant la finale de la Coupe d'Europe entre Liverpool et la Juventus de Turin. Vus comme des êtres décérébrés, ivres, racistes, violents, les supporters de foot sont régulièrement condamnés par l'opinion publique, les politiques et les médias. Une vision parfois lucide, mais qui masque aussi une réalité plus complexe. À travers l'histoire des supporters du Paris Saint-Germain et de ses deux tribunes historiques, Auteuil et Boulogne, c'est le football et peut-être même la société dans son ensemble qui est interpellé. Retour donc sur quatre décennies d'histoire footballistique, celle du PSG et de ses supporters les plus fidèles. Notre invité aujourd'hui, Ludovic Lestrelin, sociologue du sport et maître de conférences à l'université de Caen. Il nous attend dans les studios de France Bleu Normandie. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
m² de pelouse, 48 583 places assises. Depuis 1974, le Parc des Princes, mastodonte de béton et d'acier au sud-ouest de Paris, accueille le Paris Saint-Germain en tant que club résident. Malgré de récents travaux de rénovation, ce stade est un vieux de la vieille comparé aux infrastructures modernes sorties de terre ces dernières années ailleurs en France. Pourtant, le parc arrive régulièrement en tête des classements des stades préférés des joueurs. Parmi ses atouts, une acoustique parfaite, grâce à d'immenses portiques en porte-à-faux qui font caisse de résonance, et des tribunes où l'on voit bien partout, oui, où qu'on soit installé. Comme Félix Bollaert, le stade Lensois, ou Geoffroy Guichard, le Chaudron à Saint-Étienne, le Parc des Princes fait du bruit, beaucoup de bruit. Extrémité du stade, jusqu'en 2010, deux tribunes de supporters portent les joueurs par leurs chants, leurs applaudissements et vibrations transmises à l'équipe qu'ils soutiennent d'un même élan, le PSG. Ces deux tribunes, ce sont Boulogne-Auteuil. Distantes d'une centaine de mètres, elles défraient la chronique autant qu'elles effraient ceux qui ne les fréquentent pas. Oui, le stade, ce lieu si particulier où la passion du sport s'exprime dans toute sa puissance, peut faire peur. Véritable cocotte-minute, cet espace confiné cristallise des émotions et des enjeux de société qui semblent sans cesse sur le point d'exploser, jusqu'à la tragédie parfois, que nous le verrons au cours de ce récit. Mais si le stade exprime parfois la violence que l'homme peut porter en lui, rappelons que les supporters les plus fervents, ceux que l'on retrouve dans les tribunes Boulogne et Auteuil, ne constituent pas un groupe homogène, uniformément agressif ou intolérant. Loin de rechercher l'affrontement physique, pratique privilégiée par des individus finalement minoritaires, inspirés des hooligans anglais, les supporters du PSG, ceux qu'on appelle les ultras, sont là pour supporter leur équipe et vivre des émotions fortes. Sur le modèle des tifosi italiens, ils développent une culture populaire à la gloire de leurs joueurs. Pendant 90 minutes, sans jamais s'arrêter, ils secouent drapeaux et écharpes, tapent dans leurs mains et chantent en chœur avec une ferveur rare. Des traditions familiales, en fait, transmises de génération en génération, qui s'écrivent hors des stades. Oui, quand on se réunit, par exemple, pour préparer des tifos, ces animations visuelles monumentales, visibles de toutes les autres tribunes. Un engagement presque militant, vécu au quotidien, parfois à des centaines de kilomètres de Paris, lors des déplacements de supporters. Au Parc des Princes, comme dans tous les stades de foot, chaque match raconte la complexité de la vie, la joie et la peine, la chance et la poisse, la rivalité et le combat. Mais au-delà des provocations verbales et physiques, les ultras témoignent aussi d'une culture qui se veut contestataire, dirigée contre les élites, les médias et la société capitaliste. Une passion qui s'exprime ailleurs, à Nantes, à Strasbourg, à Marseille, mais que nous avons choisi, pour ce récit, parisienne. Car tandis que le football devient chaque jour un peu plus la vitrine du bling-bling et du consumérisme, sur le terrain comme dans les tribunes, le PSG fait figure d'emblème paradoxal. Sur ses gradins cohabitent désormais des supporters clients qui viennent admirer les stars achetées par les financiers qataris et les supporters historiques du club qui se battent pour conserver leur tribune, défendre leurs droits et vivre leur passion. Voici donc l'histoire des supporters ultra du Paris Saint-Germain.
C'est peut-être le tournant de la rencontre et peut-être de cette finale de la Coupe de France. Dominique Baratelli, voyez, qui n'en croit pas ses yeux pour l'instant, donc un pénalty manqué, on peut le dire, par la formation de Saint-Étienne. Qui va tirer pour le Paris Saint-Germain? C'est peut-être là que va se jouer la Coupe de France. Si vous apercevez en gris le président du Paris Saint-Germain, Francis Borrelli, très ému bien sûr, en direct du Parc des Princes, bien sûr, attention, il y est, et voilà, voilà, la série de pénaltys est terminée.
Nous sommes en 1982 et le Paris Saint-Germain vient de remporter sa première Coupe de France après une finale épique face à Saint-Étienne. Les joueurs boivent du champagne, nus dans les vestiaires, et le président du club, Francis Borrelli, embrasse la pelouse. Une époque joyeuse et un patron généreux qui marqueront des générations de supporters. Dans les tribunes du stade parisien, des spectateurs, mais aussi déjà des supporters, ceux du COP de Boulogne. Depuis la fin des années 70, alors que la quasi-totalité du Parc des Princes soutient régulièrement l'équipe adverse, un groupe de jeunes s'est installé en tribune Boulogne, attiré par des tarifs abordables. Le COP de Boulogne, inspiré des hooligans britanniques, le COP désigne en effet la tribune des supporters en anglais, soutient bruyamment le PSG, qu'il gagne ou qu'il perde. Dans un stade rarement plein à l'époque, les supporters du COP deviennent incontournables. Chants graveleux, pogo et bagarres émaillent les matchs quand les hooligans n'envahissent pas le terrain. À l'époque, une partie du COP de Boulogne qui accueille punk, skinhead et nationalistes en tout genre assume un discours politique d'extrême droite. Mais c'est surtout l'opposition violente aux supporters adverses qui soude le groupe. À Salonique, Anderlecht ou Marseille, les hooligans parisiens font preuve d'une très grande brutalité. Pourtant, s'ils sont bien visibles et bien audibles, ils n'intéressent pas beaucoup le monde politique et médiatique. Jusqu'à ce PSG Caen du 28 août 1993. Alors qu'un supporter descend sur la pelouse, en plein match, pour récupérer sa chaussure, des CRS s'interposent et tentent de l'interpeller dans la tribune Boulogne, bombe lacrymo et matraque à la main. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, la situation dégénère et les CRS sont tabassés à coups de Rangers, devant les caméras de télé.
Parc des Princes hier soir, il est 20h30. Depuis quelques minutes, l'ambiance monte dans la tribune de Boulogne, essentiellement occupée par des skinheads, supporters du Paris Saint-Germain. Un groupe de CRS tente de rétablir le calme. Ils parviendront tout juste à marcher quelques mètres dans le bas des tribunes. Très vite, en effet, le ton monte. Ce sont les mots d'abord, puis soudain, la bagarre. Un déchaînement de violence qui va durer près d'un quart d'heure, 15 longues minutes durant lesquelles les CRS vont être totalement débordés. 9h45, les skinheads sont à nouveau maîtres des tribunes. La bagarre a fait 6 blessés parmi les CRS. 3 d'entre eux sont encore à l'hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger. Hier soir, l'heure était à la polémique entre les dirigeants du club et les forces de l'ordre. Les CRS étaient-ils suffisamment préparés? Auraient-ils dû intervenir? Interrogation.
Autorités et dirigeants du club qui commencent à prendre conscience de l'ampleur du phénomène réagissent. La ministre des Sports, Michèle Alliot-Marie, publie le 6 décembre 1993 une loi relative à la sécurité des manifestations sportives qui instaure une nouvelle peine, l'interdiction de stade. Les hooligans des Copes de Boulogne en font immédiatement les frais, tandis que 18 personnes sont condamnées à de la prison ferme. Pendant que les pouvoirs publics tentent d'endiguer la violence des hooligans par des mesures répressives, au Parc des Princes, la configuration des tribunes est remaniée. Aux commandes du PSG, qui a été racheté en 1991 par Canal+, s'est installé Michel Denisot. Avec 250 millions de francs, le club parisien bénéficie désormais de l'un des plus gros budgets du championnat de France. Un nouveau souffle pour le club et les supporters. Tandis que le recrutement de joueurs phares se succède, David Ginola, Jorge Weah ou encore le Brésilien Rai, les supporters aussi vont recevoir leur part du gâteau. Car Michel Denisot le sait, il faut casser le Cop de Boulogne. Pour apaiser les tensions qui divisent la tribune, où les hooligans ne sont pas les seuls à supporter le PSG, il va faire une proposition à un groupe. Qu'il s'installe dans le virage, en face de celui de Boulogne, à l'autre bout du terrain, subvention à la clé. C'est ainsi que Supra, Dragon ou Vitesse Falco, des groupes ultra inspirés par la tradition italienne plutôt que par la tradition anglaise, élisent domicile dans la tribune Auteuil. Plus à gauche, plus cosmopolite que Boulogne, ce deuxième virage impose un style nouveau, moins porté sur la violence. Les ultras ne recherchent pas l'affrontement à tout prix, mais ils privilégient le spectacle et la ferveur pour soutenir leur club. Un soutien qui passe par des bâches peintes monumentales, des drapeaux, des animations lors de l'entrée des joueurs, des fumigènes et surtout des chants, oui, des chants en continu, orchestrés selon un timing savant, comme aller. Paris SG sur un air d'Edith Piaf.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance. Je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da.
Les groupes ultra d'Auteuil vont changer l'ambiance du Parc des Princes. Car désormais, et la situation est unique en France, deux tribunes se font face, se stimulent. Alors que le PSG vit un âge d'or dans les années 90, les supporters de Boulogne et Auteuil incarnent, avec les joueurs, la réussite du club en France et en Europe. D'ailleurs, les joueurs le disent eux-mêmes, oui, les deux virages influent sur le jeu par leur soutien permanent, dans le malheur ou dans la gloire. Bref, les supporters portent l'équipe en cas de doute ou de fatigue et désarçonnent l'adversaire. Une union sacrée avec le terrain qui fait trembler le sol et vibrer les cœurs sans empêcher le développement malheureux de funestes rivalités. À Boulogne, le départ d'une partie des supporters vers Auteuil s'accompagne de divisions au sein même de la tribune. D'un côté, les Boulogne Boys, un groupe de supporters ultra minoritaires donc, souvent mis en avant par les médias pour leur violence. Pourtant, les Boulogne Boys, qui ne sont pas des hooligans, sont loin d'être les plus durs de la tribune. Non, les hooligans, ce sont ceux qu'on appelle les indépendants ou les casuals, des supporters moins exubérants que les ultras, qui vivent leur passion à travers une culture vestimentaire liée à des marques et leur attrait pour la bagarre entre adultes consentants. Si la tribune Boulogne est souvent accusée d'attirer fascistes et néo-nazis, Auteuil, elle, revendique son cosmopolitisme. Une opposition à l'origine de nombreux affrontements, décryptés par le sociologue Nicolas Ourcade sur France Inter.
Le cliché que c'est des bandes de cités qui se battent contre des jeunes d'extrême droite doit être fortement nuancé. En fait, il y a des gens qui viennent de différents milieux dans les deux tribunes. Il se trouve que historiquement, il y a une minorité forte à Boulogne qui a imposé une tendance nationaliste dans cette tribune, donc la tribune est blanche, et que les jeunes maghrébins ou noirs préfèrent aller à Auteuil où ils sont en sécurité. Donc il y a cette opposition-là. Ça ne veut pas dire que tous les occupants de Boulogne sont racistes et que tous les occupants d'Auteuil sont antiracistes, mais c'est une opposition qui renforce la rivalité et qui structure un peu le conflit, puisque ben, souvent ça part d'insultes racistes, de ripostes des jeunes qui se sentent insultés. C'est un peu comme ça que les conflits se sont engrainés ces dernières semaines.
L'appartenance politique des supporters parisiens à Boulogne comme à Auteuil reste souvent discrète. Du côté de Boulogne, les éléments trop politisés de la tribune d'ailleurs ont été écartés afin de ne pas dénaturer le mouvement. En 1995, des membres du PNFE, parti d'extrême droite, sont ainsi chassés manu militari de la tribune après avoir distribué des tracts. Le stade n'est pas un lieu de prosélytisme et le véritable acte politique pour les supporters du PSG, c'est l'appartenance à la tribune, tout simplement, et au risque d'en perdre, il faut bien le dire, la raison, comme le chantent les supporters du virage Auteuil. Mais la rivalité historique, celle que tout le monde connaît, oppose le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Un antagonisme créé de toutes pièces dans les années 90 par Bernard Tapie, président de l'OM, et par Canal+, propriétaire du club parisien. À l'époque, la chaîne cryptée veut faire du foot un feuilleton médiatique pour attirer des téléspectateurs qui délaissent le championnat français. Dans les stades, les supporters sont là pour animer le match, mais à la télé, on s'ennuie. Alors, Canal+, va nourrir cette rivalité artificielle PSG-OM. Désormais, c'est le Nord contre le Sud, la capitale contre la province. Cette concurrence, les supporters du PSG vont la reprendre à leur compte. Et ainsi, au cours des années 90 et 2000, chaque match donne lieu à des affrontements, des hospitalisations même, et des interpellations, souvent. Le 13 octobre 2000, un supporter de l'OM est paralysé à vie après avoir reçu un siège de la tribune supérieure du Parc des Princes. Mais les supporters parisiens n'ont pas que des ennemis, ils entretiennent même des rapports fraternels avec plusieurs équipes européennes. En 1997, les supporters de Liverpool, parmi les plus connus au monde du foot, sont accueillis en grande pompe au Parc des Princes, qui déploie pour eux une banderole sur laquelle on peut lire « Welcome to the legendary fans ». Et au sein même du parc, les supporters du PSG se souviennent parfois qu'une même passion les unit, finalement. Au début des années 2000, des champs à deux tribunes sont ainsi mis en place. Boulogne et Auteuil se répondent pour encourager leurs joueurs ensemble. Ce n'est plus le plaisir de chanter, mais la douleur et la mort d'un homme qui vont réunir les supporters du PSG. Ce 23 novembre 2006, le club parisien affronte l'Hapoël Tel Aviv, à domicile. À l'issue du match, une défaite pour les Parisiens. Alors, l'ambiance est tendue. Une altercation éclate entre un supporter de l'équipe israélienne, Yaniv Hazout, et un groupe de supporters de la tribune Boulogne. Les insultes fusent, des propos antisémites se font entendre et la situation dégénère. Dans la panique, le policier Antoine Granomore tire un coup de feu sans sommation vers deux supporters parisiens. Monir Bouchaer est grièvement blessé et Julien Kemener perd la vie. Dès le lendemain, avant même que l'enquête ait été menée, la légitime défense est retenue en faveur du policier et l'ensemble du monde politique et sportif montre Boulogne du doigt. Une partie de la tribune est immédiatement fermée par Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur. Les ultras d'Auteuil, eux, se montrent solidaires de leurs meilleurs ennemis et réclament une enquête. En France et en Europe, l'ensemble des supporters vont eux aussi apporter leur soutien aux Parisiens. En Italie, en Espagne, en Angleterre, mais aussi à Saint-Étienne, à Toulouse, à Marseille, les banderoles en mémoire du défunt fleurissent. Le non-lieu en faveur du policier est finalement prononcé 5 ans plus tard. Trop de répression, pas de justice, affiche-t-on dans les tribunes de Reims. Malgré la trêve que connaissent la rivalité entre les tribunes Auteuil et Boulogne en cette funeste année 2006, les violences reprennent vite. En janvier 2010, par exemple, lors d'un Lille-PSG, les hooligans de Boulogne chargent violemment les ultras d'Auteuil. La France aux Français, disent certains supporters, qui regardent d'un mauvais œil les gradins multiethniques d'Auteuil. Depuis longtemps déjà, de nombreuses provocations racistes sont régulièrement constatées, sans que les forces de l'ordre n'interviennent dans ces bagarres claniques. Jusqu'à l'affrontement de trop, celui qui va tout changer. À la fin d'un match, PSG-Marseille, des passants commentent ce qui se déroule sous leurs yeux.
Ils sont en train de se faire gazer. Oh putain, ça cogne là.
Ah putain, regarde, ils sont venus en fait.
Ouais.
Putain, le coup.
Le pauvre, dit une jeune fille dans cette vidéo amateur. Le pauvre, c'est un membre de la Casual Firm Paris, organisation de type hooligan lynchée par des supporters d'Auteuil lors d'une bagarre provoquée par des fans nationalistes. L'homme mourra de ses blessures 2 semaines après le match. L'ensemble du monde du football est sous le choc. Sur France Inter, le journaliste Ludovic Faux s'interroge et dit... Après cette tragédie, doit-on s'attendre à une aggravation des tensions entre les tribunes? La réponse du sociologue Nicolas Ourcade n'est pas rassurante.
Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation de tension extrême, que les associations se mettent en retrait. D'ailleurs, l'une d'entre elles, Lutèce Falco, de la tribune Auteuil, s'est complètement mise en sommeil. Donc, face à une situation de tension extrême, je pense que chacun tente d'apaiser un peu la situation. Là, on ne sait pas vers quoi on va. Soit on va vers une logique de vendetta et des violences de plus en plus graves, soit on arrive à canaliser le phénomène par déjà l'action des plus modérés des supporters, et puis par l'action du club et des pouvoirs publics.
Pour les pouvoirs publics, comme pour le club, c'est maintenant clair. Les supporters du PSG constituent un problème de sécurité publique. Le 8 mai 2010, le Parisien l'annonce. Romain Leproux, président des clubs, a décidé un plan pour pacifier les tribunes. Parmi les mesures phares de ce qu'on appelle le plan Leproux, soutenu par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, le placement aléatoire pour les anciens abonnés des tribunes Auteuil, Boulogne, K et G, et l'interdiction des déplacements lors des matchs du PSG en province via des arrêtés préfectoraux. Pour les supporters, évidemment, c'est la douche froide. Non seulement le club les a trahis, eux qui soutiennent parfois le PSG depuis 30 ans, mais surtout, c'en est fini de leur passion. Les associations de supporters ne pourront plus se réunir et soutenir leur équipe. Pour se débarrasser d'une minorité d'éléments violents et incontrôlables, estimés à 300, et connus des services de police, le plan Le Prou laisse ainsi de côté près de 13 000 personnes, le cœur du stade, le vivier populaire du Parc des Princes. L'application de ces mesures de sécurité va donner lieu à des situations inédites. À Rennes, en février 2011, 250 billets achetés sur Internet par des Parisiens sont annulés. Une décision du ministère de l'Intérieur qui place le club breton frontière de la légalité. Car pour procéder à ces annulations, il doit localiser les adresses IP des acheteurs, ce qui est contraire à la loi. Les supporters, dont le député PS Malik Bouti, expriment leur ressenti dans Parc, un documentaire de William Twitou et Jérôme Benadiné, produit par When We Were Kids.
Les premiers temps du plan Le Prou, ça, franchement, c'était pas dire du grand n'importe quoi, mais on a quand même vécu des situations complètement surréalistes.
Et les matchs à huis clos, les interdictions, des mesures d'exception qui devenaient une folie, des décrets départementaux interdisant à quelqu'un avec une plaque 75 ou de l'Île-de-France de circuler dans une région, on n'a jamais vu ça, hein. Depuis les années 40, j'ai jamais vu ça en France. Des trucs qui étaient limite même du droit démocratique.
La liberté de circulation a été complètement bafouée, piétinée. Et ça, c'est vraiment le reproche moi, que je fais au plan Le Prou.
Liberté pour les abonnés, une association créée par Jérémy Laroche dénonce des mesures liberticides. Des opérations de contre-parquage sont organisées. Des supporters du PSG se mêlent ainsi aux supporters de Valenciennes ou de Caen, hors tribune invitée. Lors d'un PSG-Brest, ils achètent des places en tribune présidentielle très coûteuses pour montrer que l'argent autorise le regroupement de supporters au Parc des Princes. Mais les anti-Le Prou de l'EPA vont rapidement faire les frais de leur engagement. Les interdictions de stade, cette mesure instaurée par Michel Alliot-Marie en 1993, ne cessent de tomber. Parce qu'ils brandissent une écharpe aux couleurs d'un groupe ultra ou qu'ils chantent contre le plan Le Prou, les supporters qui veulent encore se rendre au stade s'en font souvent exclure. Ni les pouvoirs publics, ni les dirigeants du PSG ne semblent ouverts au dialogue. Quant à la presse, elle n'aborde qu'une partie de la question sans beaucoup s'intéresser au point de vue des ultras. Alors, certains supporters, dégoûtés par la façon dont médias et politiques les traitent, choisissent la violence protestataire comme mode d'expression. D'autres, et c'est la majorité, font le choix radical du boycott. Mieux vaut voir un match au bar ou à la maison plutôt que dans un stade sans vrais supporters. Progressivement, le Parc des Princes se vide. 5000 places pour un match un jour, sur les 50 000 disponibles. Le club fait pourtant ce qu'il peut, offre 10 000 tickets via des jeux concours, mais rien n'y fait. Alors que le président Le Prou se félicite de l'ambiance bon enfant qui règne dans les gradins, Christophe Jallet, latéral droit du PSG, le dit lui-même sur RMC, le parc, quand même, c'était mieux avant. Désormais, en cas de défaite, le public s'en va à la 80e minute, quand les ultras auraient continué, eux, de chanter et jusqu'au bout pour rassurer et pousser leurs joueurs. Désormais, on n'hésite pas à garder le silence dans les temps morts et même à siffler les buts ratés. Le PSG a perdu son âme et les supporters bordelais se moquent. Le parc, on est chez nous, merci Le Prou, affichent-ils sur leur banderole. Mais en 2011, un an après le plan Le Prou, le Parc des Princes va de nouveau se remplir à défaut de résonner des chants des ultras. Avec l'arrivée des Qataris et du nouveau président pour le club, Nasser Al-Khelaifi, le PSG entre dans une ère nouvelle, celle des paillettes. Des centaines de millions d'euros sont injectés pour acquérir des joueurs stars, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et relancer le club. Pour les supporters, c'est un dilemme terrible. Continuer le boycott et ne pas voir le PSG au sommet de son art ou jouer le jeu des pétrodollars qataris et d'une ambiance factice? car au parc, désormais, ce ne sont plus les tribunes taguées d'Auteuil, les drapeaux faits maison et les fumigènes, mais des spots de lumière en tribune, des distributions de drapeaux standardisés, des places à 50 euros en virage. C'est tout ça qui fait l'ambiance maintenant. Dans Parc, le documentaire de William Twitou et Jérôme Benadimet, les supporters racontent.
Maintenant, on a des gens qui arrivent avec des exigences au niveau du spectacle et aucune culture footballistique et du PSG en particulier.
L'ambiance a énormément changé. Les gens perdent de plus en plus l'habitude d'encourager leur équipe parce qu'on est entré dans l'ère du football business, du football théâtre, du football opéra.
C'est un stade à l'américaine. Tu payes ton sandwich, tu t'assois donc tranquillement à ta place et à ta place. Donc si t'es avec une personne que tu connais qui a pas la même place que toi, il s'assoit trois places plus loin. Tu peux pas te mettre à côté, hein, c'est interdit, sinon t'as les stewards qui arrivent qui te dégagent du stade.
Donc la volonté de créer une ambiance finalement de manière un peu factice par le club.
Et ça va tendre de plus en plus vers ça au fur et à mesure des saisons parce que les Qataris ils sont ici pour faire du spectacle et ils ont pas pris conscience qu'en tribune le spectacle qui pouvait être fait par le passé par les anciennes associations ne peut pas s'acheter.
Les fans historiques des virages Auteuil et Boulogne sont remplacés par un nouveau public, nombreux, c'est vrai, mais occasionnel, passif, spectateur plus que supporter. L'identité populaire du club, alors qu'il s'impose à l'échelle européenne, se noie dans le consumérisme qatari. Dans un premier temps, le PSG de Nasser poursuit la logique du plan Le Prou en sanctionnant par exemple des chants dirigés contre sa présidence. Mais de plus en plus, les voix des supporters se font entendre à Paris, comme en Corse, à Nice ou à Marseille. Car les arrêtés préfectoraux initiés en 2010, avec l'appui du ministère de l'Intérieur, se généralisent parfois sans menace réelle d'affrontement inter-supporters. En parallèle, un projet de loi autorisant le fichage des supporters, jusqu'ici illégal, est déposé en 2016, provoquant l'ire des fans de foot. Le Conseil national des supporters de football, qui regroupe 10 000 adhérents nantais, parisiens et stéphanois, conçoit alors, avec 22 parlementaires de tous bords, un projet de loi prévoyant la représentativité des supporters dans les instances nationales et les clubs. Florian Le Teuf, président du CNSF, décrypte sur France Inter.
On considère que les clubs ont une responsabilité sociétale qui passe par le dialogue avec les supporters qui sont là depuis un an, 10 ans, 30 ans, abonnés depuis 40 ans. Il y a souvent des clichés autour des supporters, beaucoup d'amalgames. Le supporter, si on caricature, c'est le beauf de Cabu. Mais il faut savoir qu'il y a le beauf de Cabu, mais il y a aussi le directeur de recherche du CNRS ou le chef d'entreprise, ou le professeur des facultés de droit. Et tous ces gens-là vont se lever ensemble. Parfois même, dans les grandes occasions, ils vont se prendre dans les bras l'un de l'autre. Et effectivement, les instances ont un problème avec les supporters parce qu'elles ne cherchent pas à comprendre ce que c'est qu'un supporter. Elles restent avec leurs clichés. Des supporters qui seraient des imbéciles, avinés, violents, d'extrême droite, etc. Ils veulent rester avec ces clichés-là et ils ne comprennent pas ce qu'est un supporter. Effectivement, si les instances ferment les portes, on ne responsabilise personne. Si on est considéré comme des enfants, ben, y a des débordements. Mais parmi les supporters, il y a aussi des gens intelligents et ce serait intéressant de dialoguer pour qu'on apprenne les uns les autres à se comprendre et ce serait tout ça, selon nous, dans l'intérêt général du football.
Si la loi n'a pas été votée, dirigeants du club et autorités semblent avoir entendu le message. La solution avec les supporters plus ou moins supportables, c'est la concertation. Début 2016, différents groupes de supporters du PSG encore actifs, tels que les Ultra Xox Team ou Paria Cohortis, s'associent dans le collectif Ultra Paris pour montrer que 6 ans après le plan Le Prou, les supporters du Paris Saint-Germain sont toujours motivés, mais désormais ils sont organisés. La même année, après l'avis favorable de la préfecture de Paris, une centaine de membres du collectif Ultra Paris sont autorisés à assister ensemble au match contre Bordeaux. Une rencontre, d'ailleurs, sans heurts, qui convainc les dirigeants du PSG de signer une convention avec le collectif. Et ainsi, le 11 août dernier, c'est officiel, les ultras sont de retour à Auteuil et ils le chantent haut et fort.
Thank you.
Les supporters du PSG, une incarnation parmi d'autres de ce que peut représenter la passion et tout ce qu'elle contient de déraisonnable. Quant aux supporters du PSG, ils vivent peut-être, probablement même, l'année du triomphe de leur club qui n'a jamais été aussi fort. À coups de millions d'euros, la direction qatari du PSG a fait main basse sur les meilleurs joueurs d'Europe. Alors, si après ce hold-up autorisé par les instances européennes du football, le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions, son objectif ultime, eh bien ce sera la preuve que l'argent ne fait pas tout. Mais les supporters, quoi qu'il arrive, seront toujours là, fidèles, à Auteuil comme à Boulogne. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les ultras du PSG, notre invité Ludovic Lestrelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du sport et maître de conférence à l'université de Caen, là où vous êtes, là où vous nous parlez, vous êtes en duplex, dans les studios de France Bleu, Normandie, Basse Normandie. Les supporters de football, première question, sont-ils finalement différents des supporters des autres sports? Alors on pourrait prendre, puisqu'on est dans les stades, le rugby. Sont-ils différents des supporters de rugby et en quoi sont-ils différents?
Alors je vais vous faire une réponse de Normand. Hein.
Ça tombe bien.
Non. Voilà. Non, parce que on retrouve des logiques assez similaires finalement, quelle que soit la discipline sportive. C'est-à-dire que finalement un groupe de supporters, c'est quoi? C'est un cercle de sociabilité autour d'un intérêt commun qui va être intensément investi d'affect, d'émotion, et puis qui va être l'occasion de cultiver du lien social. En même temps, oui, parce que c'est vrai que le football, la constitution des premiers groupes est assez rapide, parce que dès les années 1920-1930, il y a des groupes qui se constituent autour des clubs du nord de la France ou dans le midi de la France. C'est aussi dans le football qu'on trouve les collectifs les plus nombreux, sous des formes très diverses, avec une forte visibilité médiatique. Votre documentaire a bien exposé le fait que notamment les supporters ultras se sont imposés depuis les années 80 en acteurs du spectacle. Ce sont aussi des groupes, et ça c'est une vraie caractéristique du football, qui sont très marqués par le genre masculin, hein. Oui. Ça c'est très, très, très particulier. Et puis la présence de la violence également. En France, la violence autour du supporterisme se concentre dans le football. C'est pas forcément toujours le cas dans d'autres pays européens où, par exemple, le basketball peut générer également des affrontements violents entre supporters, je pense,
aux États-Unis,
à la Grèce ou à la Turquie.
Ah oui, on était plutôt du côté de l'Europe. Ouais, oui, peut-on dire historiquement que le mouvement ultra vient d'Italie et le hooliganisme d'Angleterre, que ce sont deux courants qui se ressemblent comme ça vu de loin, mais qui sont différents?
Oui, c'est un découpage qui est plutôt juste avec effectivement à l'Europe du Sud et notamment l'Italie, mais pas que, plutôt les supporters ultra, et l'Europe du Nord étant plutôt marqué par le développement du mouvement hooligan, et d'abord en Angleterre, puis après aux Pays-Bas et en Belgique et en Allemagne. Ça renvoie effectivement à des formes de supporterisme différentes. La France se situant un petit peu à mi-chemin, parce que dans les années 1980, c'est nettement moins vrai aujourd'hui, hein, c'est même plus vrai, mais dans les années 80 et encore dans les années 90, le sud de la France était plutôt, les équipes du sud de la France étaient plutôt suivies par des groupes ultra. Et les foyers de hooliganisme étaient plutôt dans le nord de la France. Mais bien sûr, les choses sont plus complexes parce que ces deux modèles qui sont présentés de manière très séparée, sur certains points, c'est justifié, mais c'est assez poreux en fait. Et notamment, les premiers groupes ultra qui se développent en Italie dans les années 1960 et 70, ces jeunes Italiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inspirent largement de ce qu'ils voient du côté de l'Angleterre.
Ouais.
Et c'est l'un des effets de l'européanisation du football, parce que ça, c'est notamment via les matchs de Coupe d'Europe que ces modèles circulent d'un pays à l'autre. Et bon, alors aujourd'hui, le supporterisme ultra s'est répandu partout en Europe. Mmh. Et le foyer du hooliganisme s'est plutôt déporté vers l'Europe de l'Est.
Alors, on a parlé du PSG pendant ce récit, parce qu'il fallait prendre appui sur un club qui est en soi une histoire. C'est le principe de notre émission, de s'appuyer sur une histoire. Mais enfin, il y a d'autres équipes de foot qui sont connues pour leurs supporters. En France, ça dépend des époques aussi. Il se trouve que je suivais l'équipe de Saint-Étienne, la grande équipe de Saint-Étienne, quand j'étais gamin, et que c'était vraiment là pour le coup très très bon enfant, d'un public d'ouvriers, notamment la manufacture, Manu France, et c'était vraiment bon enfant. Et de mes souvenirs, il n'y avait pas de bagarre. Il n'y avait vraiment pas de bagarre. Bon, aujourd'hui, on a Marseille où il y a aussi une vraie identité de club et de supporters. Hein. C'est tout aussi célèbre que les supporters du PSG. Vous les connaissez bien, je crois, ceux de Marseille, non?
Alors effectivement, moi, mes enquêtes sociologiques portent particulièrement sur le cas marseillais, et c'est effectivement un foyer très important de supporterisme en France. C'est autour de l'Olympique de Marseille que se développe, en particulier donc au milieu des années 80, le supporterisme ultra. Paris est également un autre foyer de développement du supporterisme un peu nouveau modèle dans les années 80, mais c'est vrai que Marseille connaît le développement de ses premiers groupes d'ultra au milieu des années 80. C'est aussi des groupes qui se sont peu à peu imposés dans l'environnement du club comme une véritable, je dirais presque, force politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les dirigeants doivent composer avec les groupes qui sont des groupes relativement stables, hein, qui ont une trentaine d'années d'existence pour certains d'entre eux, et qui se sont professionnalisés également, hein, puisque ces groupes ont pu, pour certains, acheter des locaux en ville, parfois salariés des supporters, acheter du matériel, ont un poids médiatique important. Mmh. Ils sont souvent sollicités par les médias pour donner leur avis sur certaines orientations de la politique du club. Ils ont parfois certaines connexions à des élus locaux. C'est ce qui est finalement une assez bonne illustration du fait que le supporterisme touche évidemment à la question du football et du stade, mais ça déborde très largement ces questions-là, et ce sont des acteurs aussi de la ville parfois.
Et ils s'expriment, ces supporters, comme l'illustre cet extrait qu'on va entendre ensemble, un extrait du documentaire de William Twitou et Jérôme Benadinet. Ce documentaire s'appelle Parc, il est produit par When We Were Kids.
Il doit y avoir des associations de supporters dans un club, c'est comme des syndicats. Quand on est patron, on respecte contre les syndicats, mais il n'y a rien de pire que quand il n'y a pas de syndicat, on ne sait pas à qui parler.
On formait une sorte de contre-pouvoir au fait que lorsque tu nous changeais notre maillot et que tu mettais un maillot qui n'était pas le maillot du PSG à proprement parler, on était là pour contester. Quand tu voulais augmenter le prix des abos comme ça se fait actuellement, ou alors le prix des places où maintenant il faut payer des sommes astronomiques pour aller en virage, on était là aussi pour contester. On avait réussi à négocier un gel des tarifs sur 5 ans avant d'être dissous. C'était des choses importantes. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours voulu défendre un football populaire à Paris. Et que pour nous, c'est important d'avoir des virages où tout le monde peut s'abonner, pas seulement les gens qui ont les moyens.
Les ultras, par le fait qu'ils sont fidèles et qu'ils sont toujours présents au stade et qu'ils encouragent l'équipe, incarnent en quelque sorte, au même titre que d'autres supporters, la continuité de l'esprit d'un club, son histoire et le respect de certaines valeurs.
Enfin, c'est important, ça, la continuité, parce qu'effectivement, les joueurs passent, ça c'est un phénomène naturel, hein, ils arrêtent vers 35 ans, les dirigeants passent aussi, pour d'autres raisons, les supporters restent.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, ça c'est un positionnement qu'on a vu s'affirmer dans les années 1990 du côté des supporters, se positionnant finalement, se posant comme l'incarnation de la continuité et de la stabilité. Et à mon avis, c'est une réaction à des transformations qu'ont pu caractériser le football, c'est-à-dire que c'est une sorte d'attitude patrimoniale réactive par rapport à un environnement qui a énormément changé, qui s'est transformé et qui est marqué par une assez grande mobilité, fluidité des capitaux, des propriétaires, des joueurs, qui se joue des frontières nationales, avec parfois toute l'opacité qui va avec d'ailleurs. Et finalement, par réaction, les supporters vont incarner l'ancrage et la stabilité dans cet environnement particulièrement fluide et mouvant.
Les supporters du Paris Saint-Germain, dit-on, et vous allez me le confirmer ou l'infirmer, sont particulièrement surveillés en France lors des déplacements du club parisien, c'est vrai ?
Oui, c'est-à-dire que l'activité des supporters du Paris Saint-Germain fait l'objet d'un travail policier de renseignement au quotidien. Alors c'est vrai autour du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai autour de tous les clubs français. Il y a maintenant des fonctionnaires de police qui ont pour travail au quotidien de suivre le football, de suivre une équipe de football et les groupes de supporters qui suivent cette équipe, de connaître avec une certaine finesse un petit peu le terrain, de façon à anticiper d'éventuels risques qu'ils auraient pu identifier.
Donc, en fait, ils sont aujourd'hui
une réalité.
Mais c'est un principe un peu choquant, ça, le principe du potentiellement dangereux.
Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui a pu
se développer
dans la législation française dans les années 2000 et 2010, c'est-à-dire que l'action des autorités ne porte pas uniquement sur les comportements délictuels, mais aussi sur d'éventuels comportements, sur des probabilités, la probabilité éventuellement à troubler l'ordre public. Et donc la législation française a introduit ça dans un certain nombre de textes de loi.
Ouais.
Ce qui évidemment suscite des réactions de la part des supporters qui s'estiment criminalisés et sous
présumés coupables quoi. En gros,
tout à fait. Oui.
Bah oui, c'est ça le problème. En tout cas, si les supporters du PSG sont surveillés peut-être plus que d'autres parce que présumés violents, évidemment, surtout quand ils vont à Marseille. Alors cette rivalité Marseille-Paris, parfois on a l'impression que on veut faire comme nos voisins. Il y a de grandes rivalités. Il y a Real-Barça en Espagne, bien sûr. Il y a Milan-AC, Inter-Milan en Italie, voire Lazio de Rome et AS Roma. Est-ce qu'on veut faire comme les autres? Est-ce que c'est artificiel cette affaire-là? Ou est-ce qu'il y a une vraie rivalité, voire une haine entre Marseillais et Parisiens?
Il y a effectivement une certaine... c'est assez récent dans le sens où c'est dans les années 90 effectivement que les enjeux sportifs, économiques et médiatiques montent entre les deux clubs et que vous l'avez évoqué, qu'il y a une sorte de jeu entre les dirigeants des deux équipes. Mais en même temps, si vous voulez, pour que ça prenne, c'est parce que ça vient s'immiscer dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui renvoie au vieux, très très vieux rapport qui structure notre pays, qui est le Paris-Province, ah bah bien oui. sûr. Et donc, si vous voulez, le Paris Saint-Germain évidemment incarnant la capitale et l'Olympique de Marseille ayant incarné à partir des années 90 finalement la province dans son intégralité. Et puis finalement, il y a aussi quelque chose à évoquer, c'est qu'avant la constitution de cette rivalité OM-PSG, qui ne peut débuter finalement que récemment, puisque le Paris Saint-Germain n'existe que depuis les années 1970, mais il y a déjà une rivalité entre, par exemple, l'Olympique de Marseille et les clubs parisiens dès les années 1920. Par exemple, la première victoire en Coupe de France en 1924 de l'Olympique de Marseille, elle est célébrée à Marseille comme une victoire contre la capitale.
Ah oui.
Parce que jusqu'en 1924, en fait, ce ne sont que des clubs parisiens qui remportent la Coupe de France.
Et être supporter, justement, on a l'impression que c'est aussi, peut-être même surtout lié à la défense d'un lieu, d'un territoire. Est-ce que le supporterisme a quelque chose de tribal ?
C'est très lié, à la notion de territoire. Parce que les clubs eux-mêmes sont des entités territorialisées. Hein. Historiquement, ils sont rattachés à une localité, parfois un quartier, hein, même plus qu'une ville. Dans certains pays, en Angleterre, c'est particulièrement le cas. Ou une ville, ou voire une région. Et donc, le schéma qui associe un club, une localité, un territoire est très vite mis en place et du coup se développent des sentiments d'appartenance territoriale très présents dans l'univers et les représentations des supporters. Et à l'intérieur même du stade, d'ailleurs, certaines zones du stade sont aussi érigées en territoire. Les groupes s'approprient un espace du stade qui est leur territoire.
Ludovic Lestrelin, on va écouter un ultra italien. Tiens, un cousin, hein, supporter ultra italien, puisqu'on dit que la tradition ultra vient aussi de l'Italie. On écoute son témoignage. Ça remonte à l'année 2007.
Pour nous, l'objectif, c'est de gagner. Les autres, les ennemis, par terre et détruits, c'est ça, gagner. Surtout détruire l'autorité, le stade est le moyen d'expression qui permet de t'affirmer, ce que tu ne peux pas faire le reste de la semaine. Tu traînes la semaine comme un boulet.
Un bullo lo sai tutta la settimana. La domenica, diciamo che avevi il tuo grande momento di popolarità.
Et le dimanche, c'est un grand moment de popularité. La tribune est un lieu où la police ne vient pas, c'est ton virage.
Cioè, la curva è tua.
Dans la tribune, tu fumes, tu frappes ceux que tu ne veux pas voir là à tes côtés, même les policiers. Tu peux faire enfin ce que tu veux, comme tu veux. Nos armes, c'est nos couleurs. Les écharpes, les drapeaux, éventuellement tu utilises le bâton qui porte le drapeau, tu l'aiguises un peu et tu as une arme. Quand tu es un ultra, tu es un ultra toute la vie. C'est ce qui nous pousse à le faire, c'est l'intégration au groupe. Tu ne laisses par exemple jamais un des tiens par terre traîner dans une flaque de sang. Et donc c'est comme une famille, mais qui compte beaucoup plus que ta propre famille.
Era la tua famiglia più della tua famiglia.
Je précisais justement que c'était en 2007 où l'Italie était encore la patrie européenne du football qui connaît aujourd'hui une crise grave, puisque même dans les stades, il y a de moins en moins de monde, alors que leur championnat est le plus disputé des quatre grands championnats européens. Enfin, c'est un paradoxe parmi d'autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre ?
Que les groupes ultra en particulier qui fleurissent en France à partir des années 80, un peu plus anciennement en Italie dès les années 60-70, en fait, il y a très clairement dans ces groupes une dimension fondamentale qui touche à la construction de la masculinité, à l'expression de la virilité, et qui peut passer effectivement par l'affrontement physique. Et en fait, ce sont véritablement des cercles de sociabilité masculine qui fonctionnent comme un rite de passage, où on se construit, on s'affirme en tant qu'homme, et on trouve une place d'homme dans un collectif d'hommes. Et de ce point de vue-là, finalement, le supporterisme remplit des fonctions qui étaient assurées auparavant ailleurs dans la société, soit dans le travail, soit dans la sphère éventuellement militante. Ça passe à partir en France des années 80, la construction identitaire d'une partie de la jeunesse française masculine passe par les tribunes et les stades.
Toute dernière chose, vous vivez à Caen, vous connaissez bien le football. Comment va votre équipe de Caen, qui est en première division, mais dont on a l'impression depuis des années qu'elle se contente d'être au milieu du classement, pourvu qu'elle soit en première division, comme un certain manque d'ambition, dû à des moyens qui ne sont pas assez forts, je ne sais pas.
Cette équipe de Caen, elle essaye d'exister avec ses moyens qui sont effectivement pas ceux de l'élite du football français. Elle cherche à mettre en œuvre un certain nombre de mesures un peu innovantes pour fidéliser son public, trouver des ressources pour attirer des joueurs. C'est pas simple, c'est l'illustration peut-être de la difficulté financière ou la difficulté organisationnelle des clubs. Voilà. Le Paris Saint-Germain est un peu l'arbre qui cache la forêt.
C'est ça. On va s'arrêter. Merci infiniment, pardon de vous bousculer, mais c'est l'heure. Voilà. Merci en tout cas pour tous vos éclairages. Au revoir.
Merci. Merci.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les ultras du PSG. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillère, Jean Bulot, Simon Maisonneuve et Gabriel Debré. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, David Jacquibovies et Fabrice Lègle. Merci à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Demain, la fiction, elle sera consacrée à Yves Saint-Laurent, l'homme qui a mis la femme en pantalon.